Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue et merci d'être toujours fidèle à Métropolez-vous, le harcèlement scolaire, un fléau dont on parle parfois dans les médias lorsque ses conséquences poussent des adolescents ou même des enfants au suicide, des cas extrêmes qui choquent un temps l'opinion publique avant que l'actualité nous fasse passer à autre chose. Pourtant, ce phénomène est quotidien dans de nombreux établissements et même en dehors. Si fort heureusement, il n'amène pas toujours des élèves à se suicider, il gâche à des degrés divers la scolarité et la vie de beaucoup trop d'entre eux. Quelle est la situation dans la métropole toulousaine? Combien d'élèves sont concernés chaque année et comment repérer ceux qui en sont victimes? Quelle forme peut prendre le harcèlement scolaire de nos jours et quelles actions sont menées pour lutter contre? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre lors de ce numéro intitulé « Lutte contre le harcèlement scolaire, la situation et les actions dans la métropole toulousaine ». Pour nous aider à appréhender le phénomène du harcèlement scolaire et répondre à toutes les questions qu'il soulève, Métropolez-vous reçoit aujourd'hui Elisabeth Claire, formatrice consultante du Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées. Bienvenue madame et merci pour votre venue à Radio Présence. Alors comme je ne suis pas persuadé que tout le monde connaisse votre association, je vais vous demander de nous la présenter. Depuis quand existe-t-elle? Quelles sont sa raison d'être et ses activités et services?
Alors, le Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées existe depuis 2003. C'est une association donc, dont l'objet, c'est le développement de la culture de la non-violence sous toutes ses formes. Donc, nos actions vont être comme un centre de ressources. Donc, on a une bibliothèque, on a une partie ludothèque avec des possibilités de venir emprunter des livres ou des jeux ou des outils pédagogiques puisqu'on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est l'éducation. Sachant que plus tôt les enfants découvrent la possibilité d'agir et d'interagir avec non-violence, plus on peut imaginer que les adultes seront des adultes plus épanouis. Donc on intervient à la fois sur ces aspects-là et à la fois sur un champ de formation. Et donc là, j'en parlerai tout à l'heure, hein, on a une intervention qui est prévue dans la métropole, dans la ville de Toulouse. Et par ailleurs, on est un lieu d'accueil où on reçoit à l'occasion de permanence des gens qui s'intéressent sur les différents sujets autour de la non-violence.
Voilà. Alors, je précise que vous êtes basé à Colomiers.
Exact.
Toulouse. Et pour que les choses soient claires pour nos auditeurs, est-ce que votre association reçoit directement des victimes de violences, quelle que soit la forme de celle-ci, ou agit-elle plus en amont en faisant de la prévention, en promouvant une philosophie de la non-violence par des formations, des interventions, des conférences ou éventuellement d'autres actions?
Alors effectivement, ça c'est plutôt notre mode d'action. On est effectivement plutôt dans la prévention. Par contre, c'est vrai que nous avons des permanences où viennent des personnes qui sont parfois victimes elles-mêmes de violences ou qui constatent des violences à côté d'elles et qui du coup viennent se renseigner. Nous ne sommes pas un lieu d'écoute à visée notamment thérapeutique. On n'a pas les compétences pour ça, c'est pas notre raison d'être. Et donc par contre, on va orienter les personnes pour qu'elles puissent trouver, notamment dans la métropole, des endroits où elles puissent rencontrer des professionnels qui vont les accompagner en cas de violence, et ce, quel que soit le type de violence qu'elles subissent.
Il fallait que ce soit précisé. Merci pour cette présentation du Centre de ressources sur la non-violence et de ses activités et services. Nous allons poursuivre notre échange dans quelques minutes. Dans l'immédiat, il est temps de passer la parole à Corinne Saint-Félix pour son flash d'information métropolitaine hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu. Et c'est la première information de ce flash. La semaine dernière a eu lieu dans la métropole toulousaine et dans le reste de la France d'ailleurs, la troisième journée de lutte contre la violence et le harcèlement en milieu scolaire.
Oui, un fléau qui touche des centaines de milliers de jeunes, 700 000 selon les derniers chiffres du ministère, et contre lequel les pouvoirs publics ont décidé d'organiser en 2015 une journée nationale chaque premier jeudi de novembre. Le thème central cette année a tourné autour des témoins et du rôle décisif qu'ils peuvent avoir, soit en intervenant directement, soit en témoignant à posteriori, 22% des enfants harcelés n'en parlent à personne.
Il faut noter que l'Académie a aussi mis en place un dispositif SOS Violence.
Un dispositif qui permet d'avoir un lieu de parole pour les victimes, témoins ou auteurs de faits de violence dans le cadre scolaire, mais aussi une écoute destinée à aider l'appelant à mettre des mots sur les violences subies, coups, injures et menaces isolées ou répétées, mises à l'écart ou encore raquettes, mais aussi des conseils relatifs à l'attitude à adopter selon les situations évoquées, une aide visant à faire le point avec l'appelant sur les démarches effectuées et celles qu'il serait important d'envisager par la suite, ou encore l'orientation de l'appelant vers les ressources locales, personnel de l'école ou de l'établissement, les associations qui peuvent l'aider à faire face aux difficultés auxquelles il est confronté.
Comme on le sait, ces violences peuvent prendre plusieurs formes.
Oui, coups, bousculades, insultes, harcèlement, cyberviolence, vol, violences sexuelles, discrimination raciste, antisémite ou homophobe et bien d'autres. Les actions à mener relèvent de la sensibilisation des professionnels et des élèves, de la formation, de la prise en charge des victimes et des auteurs.
Le sport maintenant, même si son dossier semble un peu en retard par rapport à celui de l'Afrique du Sud, la France est toujours candidate pour accueillir la Coupe du Monde de rugby 2023.
Oui, les villes hautes retenues pour la Coupe du Monde de rugby 2023, dont Toulouse, ont souhaité réaffirmer leur soutien à la candidature #France 2023. Pour cela, elles mettent en avant leur savoir-faire dans l'accueil des grands événements, maîtrisant les dispositifs de sécurité nécessaires pour garantir, comme lors de l'UEFA Euro 2016, une manifestation à la fois festive et sûr.
Mais il n'y a pas que le rugby, la France va d'autre part recevoir nombre d'autres compétitions prestigieuses.
Ryder Cup 2018, Euro de volleyball et Coupe du Monde de football féminin en 2019, candidature pour le championnat d'Europe de handball 2022, Jeux Olympiques 2024, autant d'événements qui témoignent d'une formidable dynamique de la France et confirment son statut sur la scène internationale de grand pays organisateur des plus prestigieuses manifestations sportives. Les villes hautes de leur côté rappellent leur engagement de mise à disposition de leur stade neuf ou rénové au meilleur niveau des standards internationaux à la FFR, garantissant ainsi les besoins de la Coupe du Monde de rugby 2023 pendant toute la période du tournoi. Sont aussi mis en avant leur capacité à accueillir les supporters grâce à la densité de leur parc hôtelier et en élaborant des plans de mobilité adaptés.
L'emploi, pour terminer ce flash, comme chaque année depuis 3 ans, a lieu l'opération Job sur son 31.
Jusqu'au 27 novembre, la mairie de Toulouse et Toulouse Métropole organisent avec l'association Reflet 31 cette opération solidaire. Objectif, collecter des vêtements au bénéfice des demandeurs d'emploi et de jeunes qui entrent sur le marché du travail ou qui passent un entretien de recrutement. Cette collecte de vêtements est organisée aux accueils de l'Hôtel de Ville au Capitole, de Toulouse Métropole et du site municipal de la Dorade. Cette année, Toulouse Métropole a associé l'EPID, l'établissement pour l'insertion dans l'emploi, à la collecte. Ces jeunes volontaires assureront la manutention, la collecte et le transport des vêtements recueillis lors de cette collecte.
Elisabeth Claire, une réaction à la première information de ce flash qui revenait sur la récente 3e journée de lutte contre la violence et le harcèlement au milieu scolaire. Est-ce que vous avez des précisions à apporter à ce qui a été dit ?
Alors bon, j'ai écouté attentivement tout ce qui a été dit et je ne peux que valider tout ce qui a pu être dit avec une chose qui me paraît importante. Ça a été évoqué à un moment donné, le rôle des témoins, et c'était le choix cette année-là. Hein. Et je pense qu'effectivement, on oublie trop souvent que n'importe quel enfant ou jeune peut être témoin, et c'est les témoins qu'il faut aider pour leur donner les moyens, eux, d'intervenir sans laisser leurs copains se faire harceler de façon forte, ou bien même aller éventuellement discuter avec les copains qu'ils peuvent avoir et qui ont des comportements de harcèlement. Il y a ça, donc cet aspect rôle du témoin qui me paraît vraiment essentiel, avec quelque chose qui est flagrant dans toutes les histoires de harcèlement, c'est la loi du silence, c'est-à-dire qu'on ne dit pas. On sait, mais pas parce qu'on est ni méchant, ni bête, ni rien du tout. C'est juste qu'on ne sait pas quoi faire d'une information qui nous met tellement en difficulté, tellement mal à l'aise, que ben, on ne sait pas quoi faire. Et si je dis quelque chose, est-ce que les copains ne vont pas se mettre sur moi ? Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire ? Et ça, il y a vraiment un apprentissage à faire pour sortir de cette loi du silence.
Oui, surtout que la perception de ce genre de situation n'est pas la même pour un enfant, voire un adolescent, que pour un adulte, évidemment.
Tout à fait, tout à fait. Et je crois que ça nécessite de clarifier effectivement auprès des enfants pour leur donner cette capacité d'intervenir.
Merci beaucoup pour ces explications qui nous ramènent au thème de cette émission dédiée, je le rappelle, pour ceux qui auraient rejoint l'antenne de Radio Présence depuis peu, à la lutte contre le harcèlement scolaire et à la situation et aux actions menées dans ce domaine dans la métropole toulousaine.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
La suite de Métropole et vous avec l'invité de ce numéro, Elisabeth Claire, formatrice consultante du Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées. Pour bien poser les bases de notre discussion, il me semble nécessaire de préciser cette notion de harcèlement scolaire, ou de harcèlement tout court d'ailleurs, n'est peut-être pas aussi simple à définir qu'on pourrait le croire. Il était question, lors du flash d'information, des différentes formes de harcèlement. Est-ce qu'il y en a qui dominent plus que d'autres aujourd'hui? Je dis bien aujourd'hui, parce que c'est peut-être pas les mêmes aujourd'hui qui dominent qu'il y a 10, 20 ou 30 ans.
Tout à fait. Alors, ce qui est le phénomène flagrant contemporain, c'est évidemment toute la diffusion au travers du cyberharcèlement, de messages par le biais du net, avec tous les outils, que ce soit les ordi, que ce soit les tablettes, les smartphones et autres téléphones, qui permettent de diffuser notamment des images qui mettent en difficulté un certain nombre de jeunes. Ce que je voudrais juste avant peut-être de revenir sur les formes, c'est donner... Alors j'ai pris une définition qui a été pointée par le ministère de l'Éducation nationale et qui dit « Le harcèlement en milieu scolaire ou intimidation est caractérisé par l'usage répété de la violence physique, des moqueries et autres humiliations. » Et c'est vraiment le phénomène de répétition qui est le côté flagrant du harcèlement. Il faut être attentif à pas mélanger ce qui serait de l'ordre d'une... Alors, je dis pas que c'est bien, hein, mais de l'ordre d'une bagarre ou d'un chahut à un moment donné entre gamins.
Oui, qui peut être
ça s'est passé, ouais. Voilà, ça se passe une fois, il y a eu quelque chose. Bon, bien entendu, il faut essayer de...
Oui, il faut...
Le problème dans le phénomène de harcèlement, c'est qu'il y a quelque chose qui est répétitif et qu'il y a à la fois une sorte d'impunité pour le harceleur qui va de plus en plus prendre de pouvoir et de domination
d'emprise.
Et d'emprise sur l'autre. Et puis à l'inverse, pour l'enfant ou le jeune harcelé, il y a à l'inverse une situation de plus en plus dramatique parce que son estime de lui-même est remise en cause.
Alors le harcèlement, qui concerne-t-il essentiellement? Est-ce que ça concerne toutes les classes d'âge, lorsqu'on est dans un établissement scolaire, est-ce que ça va de la maternelle à la terminale? Est-ce que ça peut aller au-delà de la terminale?
Oui.
Parce que c'est une question qu'on ne pose pas toujours, mais est-ce que ça existe aussi?
Le phénomène de harcèlement, c'est un phénomène de domination d'un ou plusieurs personnes. C'est souvent à plusieurs qu'on harcèle. Tout seul,
il y a un effet de meute qui joue.
Tout à fait, il y a un effet de groupe qui est vraiment très souvent très important. Par contre, on va harceler une personne seule. Et ça, c'est vulnérable. Vrai. Voilà. C'est vrai, quel que soit l'âge. Alors, la période la plus critique, c'est quand même les années collège, hein, où là, il y a plus de difficultés. Ça se tasse un peu sur les années lycée, et je pense aussi à la fac, même si au demeurant, enfin, fac ou études supérieures,
oui.
Où ça peut encore malheureusement arriver, mais où le gros du phénomène du harcèlement, à mon avis, se situe dans les dernières années du primaire et dans les années collège, où là, c'est vraiment l'endroit le plus marquant, quoi.
Est-ce que ça concerne autant les filles que les garçons ?
J'ai pas les chiffres précis, donc je serais en difficulté pour le dire. Je pense qu'en fait, c'est pas forcément lié au genre masculin ou féminin. C'est plus lié à, malheureusement, une caractéristique qui fait qu'à un moment donné, une personne présente une différence, qui est vue comme une différence par les autres. Et donc, ça peut être parce que c'est un bon élève, parce qu'il est trop grand, parce que... Elle est trop grosse parce que...
Elle est trop jolie.
Tout peut être prétexte. Et par contre, la caractéristique quand même, c'est que l'enfant harcelé ou le jeune harcelé, c'est un enfant qui a du mal à se positionner et à être capable de...
De
répondre quelque chose face à des phénomènes d'agression régulière et systématique.
Alors ça m'amène, tout ce que vous venez de dire, à la définition. Est-ce qu'il y aura un profil type du harcelé, un profil type du harceleur?
Alors, malheureusement, je crains que non.
Et que ça serait trop facile.
Voilà, ça peut être absolument monsieur ou madame tout le monde. En ce qui concerne le harcelé, c'est sûrement quelqu'un qui a une difficulté à poser ses limites et à dire stop, là, je me laisserai pas faire. Donc ça, c'est un élément caractéristique, mais ça peut arriver absolument n'importe où. Quant à l'enfant harceleur ou les enfants harceleurs, pour moi... C'est d'abord et avant tout des gamins qui vont pas bien. Je m'excuse quand je dis gamins, mais c'est une familiarité. Mais c'est d'abord et avant tout des enfants ou des jeunes qui ne vont pas bien et qui malheureusement donnent à voir leur mal-être par un comportement inacceptable, inadmissible. Voilà,
qui est leur mal-être trouve un exutoire
tout à fait
dans la violence qu'ils vont faire subir à un autre ou à une autre.
Oui, c'est ça, vraiment. Enfin, pour moi, on est vraiment dans quelque chose de cette nature-là. Et les témoins sont vraiment des monsieur et madame tout le monde. Ça peut être n'importe qui. vraiment travailler sur les trois entrées me paraît fondamental.
Alors évidemment, quand on parle de mal-être, il y a des gens qui vont dire on leur trouve des excuses, finalement, on les déresponsabilise. Oui. Je suis mal, donc oui, bah, c'est pour ça que je vais... Sauf que bon, on a tous des responsabilités, y compris lorsqu'on est très jeune.
Tout à fait. Tout à fait. Et que l'idée, c'est pas tant de les déresponsabiliser ni rien, c'est pas de leur reconnaître...
Aussi un statut de victime, finalement, quand on
en arrive
là.
Bien sûr. Oui. Mais ça passe d'abord par leur reconnaître la situation dans laquelle ils vivent, qui peut, pour des raisons variées et diverses, leur poser souci. Et je pense que le travail qu'on peut faire auprès des enfants harceleurs, quand on arrive à en faire, c'est effectivement de leur faire mettre des mots, M-O-T-S, là où ils sont dans des souffrances, pour qu'à un moment donné, on leur fasse pointer du doigt que la solution qu'ils ont trouvée est sûrement pas la bonne et n'est pas acceptable face à une vraie difficulté qu'ils rencontrent. Donc c'est reconnaître leurs difficultés et réorienter leur choix vers quelque chose qui soit plus constructif et non pas destructeur.
Jusqu'où ça peut aller le harcèlement scolaire dans les conséquences? J'ai parlé tout à l'heure de suicides qui sont des cas extrêmes et a priori quand même rares. Cela dit, il y a beaucoup de degrés. Alors ça va aller dans un phénomène de laisser-aller scolaire.
Oui.
Un élève qui avant avait de bons résultats d'un seul coup, et ça je pense que ça vaut un signe d'alerte, mais jusqu'à la dépression et puis donc jusqu'au suicide éventuellement.
Tout à fait. Alors effectivement, ça prend toute cette gamme de soucis-là. C'est clair que ça génère, alors je vais dire le terme générique, c'est du stress chez l'enfant ou le jeune. Et le stress, bah, ça va dire une difficulté à aller à l'école, ça va être des difficultés dans le travail scolaire qui est demandé, ça va être des difficultés relationnelles, interpersonnelles, ça va être un gamin qui mange moins, qui rit moins, qui joue moins, qui va perdre cet élan de vie que nous avons tous, et malheureusement qui est dans cette situation de stress permanent, surtout avec le cyberharcèlement, parce que ça peut arriver n'importe quand, n'importe où. Et s'il y a bien une motivation à dire aux enfants et aux ados qu'on n'utilise pas son téléphone portable, ses tablettes, smartphones ou autres la nuit, c'est au moins les protéger pour qu'ils puissent dormir, parce que la perte de sommeil peut être dramatique. Et effectivement, bah ça va jusqu'à dépression, puis tout ce qui effectivement nous amène à des phénomènes qui sont quand même rares, mais qui existent malheureusement, qui sont notamment autour du suicide.
Le suicide d'enfants ou d'adolescents.
Tout à fait.
Et je crois qu'il y a quelques statistiques au niveau national sur les personnes concernées. C'est un élève, un jeune sur combien?
Alors là, je m'appuie sur un article qui date de 2012, mais qui donnait 11,7% d'élèves d'école élémentaire et 10% de collégiens qui sont en risque de harcèlement.
Donc c'est quand même une personne sur 10.
Tout à fait.
Entre la maternelle, en gros, et puis le collège.
Ouais, ouais, oui,
oui,
oui.
Beaucoup.
Oui, qui nécessite en tout cas que ça soit pris en charge, parce que c'est quelque part, j'allais dire, un problème de santé publique. Et bon, moi, je suis ravie de voir qu'il y a des choses qui s'organisent autour de ça.
On nous parle sans arrêt du vivre ensemble, cette espèce de notion un peu creuse. Là, on est plein dedans.
Tout à fait.
Vous en avez parlé. Quels sont les signes qui doivent alerter un parent, un proche, un camarade ou un professeur qu'un élève est victime de harcèlement?
Alors, c'est tout ce qui va être le changement de comportement. Un enfant qui était joueur, qui d'un seul coup ne joue plus. Un enfant qui avait des copains, qui d'un seul coup se retrouve tout seul. C'est un enfant dont les résultats scolaires, alors là, à l'école, ça se voit vite, chutent et de façon
brutalement, sans qu'on
inexpliquée.
Comprenne pourquoi.
C'est un enfant qui se replie. Hein. Globalement, le phénomène du harcèlement, il amène l'enfant à se ratatiner sur lui-même.
Qui s'affaisse presque.
Voilà, c'est ça. Il a perdu toute confiance en lui. Et c'est ça la difficulté. Il faut, dans cette situation-là, arriver à aider l'enfant à reprendre la capacité à dire que ce qu'il vit est insupportable. Et c'est ça qui va être travaillé avec les enfants. C'est cette capacité à dire.
À sachant cela, si on a repéré quelque chose, des signes de cet ordre, quelle est l'attitude à adopter et la démarche à faire lorsqu'on a de forts soupçons d'un harcèlement en cours?
Alors, je pense qu'effectivement, dès qu'on voit et dès qu'on repère un enfant dans cette situation-là, je pense qu'il faut le plus rapidement possible informer la hiérarchie. Alors qu'on soit, on a beaucoup parlé...
L'hiérarchie de l'établissement scolaire.
Voilà, on a beaucoup parlé établissement scolaire, mais je vais aussi, moi, ouvrir à globalement tous les lieux collectifs où sont des enfants, que ça soit les clubs sportifs, que ça soit les accueils de loisirs, les clubs de jeunes ou autres. Quand on repère quelque chose, il faut informer le responsable. Parce que le responsable, il doit être en capacité de prendre en charge la situation avec le plus d'efficacité possible, sans précipitation, mais avec de l'efficacité. C'est-à-dire, ça demande quand même une compétence pour pas rajouter du problème au problème, pour pas faire flipper tout le monde. Et donc, c'est immédiatement une information à amener en se disant comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là.
Dans un établissement scolaire, il faut s'adresser à qui ? À la vie scolaire, ce qu'on appelle la vie scolaire, l'administration d'établissement ?
Tout à fait.
Peut y avoir un référent dans ce cas-là ?
Ah, il peut tout à fait y avoir une organisation en interne, ça appartient à chaque établissement. C'est sûr que la vie scolaire, et notamment le CPE, conseiller pédagogique, le nom m'échappe, principal d'éducation, c'est la personne qui doit pouvoir être... informer rapidement, et puis ensuite c'est évidemment la direction de l'établissement qui, elle, et alors dans l'éducation nationale c'est plutôt bien organisé puisqu'au niveau rectoral, il y a une personne qui est en charge de ce dossier et en capacité de répondre très concrètement en matière d'aide.
Et qui ne fait que ça.
Qui est sur ce dossier-là, et ça je pense que c'est vraiment important.
Alors donc, il faut toujours en référer en gros à l'autorité lorsque c'est dans un établissement quel qu'il soit. Ouais. En revanche, si on repère ça dans la rue, dans une cour d'immeuble, à qui on s'adresse ? À la gendarmerie ?
Ben oui, enfin je veux dire qu'à un moment donné, il y a une violence sur quelqu'un, et donc effectivement, il faut pouvoir le signaler à qui de droit, et on est dans un cadre légal, et donc cela relève de la gendarmerie ou de la police.
Alors là, c'est pour dénoncer en quelque sorte ces comportements.
Tout à fait.
Si on cherche des conseils sur l'attitude à adopter dans le domaine qu'on vient d'évoquer, à qui on peut s'adresser dans la métropole toulousaine ? Est-ce qu'il y a des associations, comme la vôtre, par exemple, ou d'autres ?
Oui. Alors, nous, on existe en tant que tel, et là-dessus, on peut renseigner, et ça fait partie de notre boulot. Après, l'Éducation nationale, sur le site de l'Éducation nationale, a vraiment un site où il y a des pages dédiées à cette question du harcèlement scolaire. Et je pense que ça vaut vraiment le coup. Et puis, il y a un certain nombre de contacts, alors qui ne sont pas forcément régionaux, mais qui peuvent être nationales, mais où on va indiquer effectivement des structures qui peuvent répondre à des besoins en matière de harcèlement.
Vous, à votre niveau, le Centre des ressources sur la non-violence, vous faites des formations, des interventions, éventuellement des conférences dans les établissements scolaires, et alors c'est auprès de qui ? C'est auprès des élèves ? Ça peut être auprès d'associations de parents d'élèves ?
Le choix que nous avons fait au niveau du Centre de ressources sur la non-violence, c'est d'intervenir plutôt en direction des adultes. Alors quand je dis adulte, c'est adulte éducateur au sens le plus large du terme, que ça soit les parents par le biais de leur association de parents d'élèves, que ça soit les enseignants, les surveillants, peu importe, on intervient avec les publics adultes pour leur donner la capacité, d'identifier ce que c'est, enfin comprendre ce que c'est que le harcèlement, identifier éventuellement des situations de harcèlement, et puis ensuite pouvoir agir correctement. Ça, c'est vraiment notre façon de travailler. On intervient très peu en direction des élèves. Peut-être ça viendra dans les temps qui viennent, mais pour le moment, on mise beaucoup sur la formation des adultes, parce qu'il faut que les adultes, là-dessus, ouvrent les yeux, et puis d'autre part, après, agissent. On ne peut pas rester les bras croisés à dire, le pauvre gamin, il faut qu'on fasse quelque chose pour lui.
Est-ce que vous êtes consulté, sollicité par les collectivités territoriales de la métropole ? Je pense aux mairies des communes, voire à Toulouse Métropole directement.
Alors, on a été très récemment retenu sur un appel d'offres pour le service des accueils de loisirs, où on va intervenir
en formation
de la mairie de Toulouse, où on va intervenir effectivement sur la formation des directeurs des accueils de loisirs pour leur permettre ensuite d'être le relais vis-à-vis de leurs équipes, de façon à ce que les animateurs qui sont au plus près des enfants soient informés, alertés, prévenus et surtout aient la capacité à agir. Donc ça, on va le faire en début 2018. On va pouvoir intervenir. À l'heure actuelle, c'est à ma connaissance sur la métropole. Une des communes qui nous a sollicité, ce qui ne veut pas dire que les autres font rien, mais en tout cas à ma connaissance,
auprès de vous,
à ma connaissance pour le moment, on en est là.
De manière générale, est-ce que vous trouvez que le phénomène du harcèlement scolaire, son ampleur, sont suffisamment médiatisés, connus des citoyens ?
Je pense que oui, ne serait-ce que par la journée qui était évoquée dans les actus tout à l'heure. Je pense que ça, c'est bien. Je pense après, le risque de surmédiatiser ce genre de fait, c'est qu'effectivement, on va, à mon avis, générer plus d'inquiétudes, de stress et autres, et que c'est pas forcément bon, puisque toute dramatisation d'un phénomène, à mon avis, c'est pas la bonne réponse.
Parce que le risque, ce sera après de voir des harcelés, des harceleurs partout.
Partout, voilà. Et que ça, c'est pas forcément pertinent. Et donc, à mon avis... l'information, elle y est, il y a des choses qui sont mises en place. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, après, bien sûr, on ne peut pas en rester là. Mais je pense que le phénomène est connu. Moi, ce qui m'inquiète toujours quand je vois des journées comme ça se mettre en place, c'est qu'il y a une journée dans l'année, mais les 364 autres jours, que faisons-nous ?
On oublie.
Voilà. Ouais. Et c'est ça Alors,
ce serait quoi alors les priorités aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'est pas encore fait ou pas assez selon vous? Quelles seraient les priorités dans la lutte contre le harcèlement?
Alors pour moi, les priorités, ça passe par la formation des adultes, hein, c'est-à-dire une formation qui soit conséquente sur les phénomènes globalement de violence, que ça soit de harcèlement ou que ça soit plus généralement de violence. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une formation nécessaire pour être sensibilisé, pas tout confondre, comprendre comment les choses marchent, pour pouvoir après intervenir et créer, parce que pour moi, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est un enfant ou un jeune ira d'autant plus facilement dire que ça va pas bien s'il est dans un climat qui le sécurise et qui le met en confiance. Et donc, c'est comment est-ce que dans nos établissements, qu'ils soient scolaires ou pas scolaires, hein, périscolaires ou autres, comment est-ce que l'équipe adulte arrive à créer un cadre sécurisant pour les enfants où la parole, où l'expression soit possible, où on arrive à dire quand on va pas bien et aussi quand on va bien, mais comment est-ce qu'on arrive à travailler cette question de la confiance? Et ça, je crois que c'est fondamental de la part des adultes de créer ce climat de confiance pour que les enfants se sentent bien, qu'ils se sentent bien avec les adultes, qu'ils se sentent bien avec les autres copains et qu'on arrive à faire quelque chose. Vous évoquiez le mot de vivre ensemble tout à l'heure. Il faut redonner le plein sens à ce vivre ensemble. On peut tout à fait vivre ensemble avec nos différences. Voir, c'est intéressant et c'est enrichissant. Et pour ça, bah, il faut qu'il y ait un travail spécifique de fait. Et donc, là, il y a du boulot.
Alors, nous terminerons quand même sur cette note d'optimisme. Merci beaucoup, Elisabeth Claire, pour cet échange et pour avoir accepté notre invitation à parler du harcèlement scolaire à Métropole et vous, un phénomène absolument intolérable et auquel chacun d'entre nous peut être confronté un jour ou l'autre. Ça n'arrive pas qu'aux autres, il faut bien le savoir. Raison pour laquelle il faut y être préparé, savoir quelle attitude adopter et vers qui se tourner pour trouver soutien et conseils. J'espère que nous aurons réussi à vous éclairer au cours de cette émission et à vous donner une idée de la situation dans la métropole toulousaine et ailleurs et des actions qui y sont menées pour lutter contre ce fléau. N'hésitez pas à vous adresser, si nécessaire, aux organismes et associations que nous avons pu citer au cours de cette émission, et bien sûr à consulter le site du Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées, www.non-violence-mp.org. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupré, à la technique Christophe Aubry. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure, et d'ici là, n'oubliez pas, Métropole et vous bien.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.